Et on va rentrer dans le message ce matin. Vous avez pris votre Bible avec vous? Étant donné que je vais prendre la parole pendant 3 week-ends de suite, je vais en profiter pour développer une série de 3 messages sur le même sujet. Et dans l'histoire de l'Église ou dans l'histoire du christianisme, il y a toujours eu, dès la naissance et la conception de l'Église, 2 types, 2 groupes ou 2 catégories de chrétiens. Par exemple, lorsqu'on regarde la parabole des 10 vierges, il y avait 5 vierges qui étaient sages parce qu'elles avaient de l'huile dans leurs lampes, et il y avait 5 vierges qui étaient folles parce qu'elles étaient en train de s'endormir. Elles étaient en train de s'assoupir. Les vierges sages, leur huile dans la lampe représente leur consécration à Dieu. Donc on voit qu'il y a une catégorie de chrétiens qui se consacrent à Dieu, qui ont de l'huile dans leur lampe, qui avancent avec le Seigneur, qui marchent vers la maturité spirituelle, alors qu'il y a un groupe de chrétiens qui tombent dans la catégorie des vierges folles et qui sont en train de s'endormir et de s'assoupir alors que c'est l'heure d'être éveillés et réveillés. Dans les évangiles, c'est la parabole qui nous l'enseigne, cette parabole des 10 vierges. Dans les épîtres, l'apôtre Paul nous parle de 2 types de chrétiens. Il nous parle du chrétien charnel et il nous parle du chrétien spirituel. Et il aurait aimé apporter aux Corinthiens de la nourriture solide, mais il était un petit peu attristé parce qu'il a dû en rester au lait, parce qu'ils étaient encore charnels, il y avait encore de la division, il y avait encore de la jalousie dans cette assemblée. Et bien que Paul, il aurait aimé apporter une nourriture spirituelle à un niveau plus élevé, mais en raison de la carnalité de cette assemblée, il n'a pas pu le faire. Et lorsque vous comparez l'épître aux Corinthiens avec l'épître aux Philippiens ou aux Éphésiens, quand vous lisez Éphésiens, mais il parle à un autre niveau. Il parle de réalité spirituelle, il parle de qui on est en Christ, il parle qu'on est assis dans les lieux célestes, alors qu'aux Corinthiens, il doit les reprendre parce qu'ils étaient ivres pendant la Sainte Cène. Donc vous voyez qu'il y a le chrétien charnel dans l'Église. Les 2 sont chrétiens, mais il y en a un qui est charnel et il y en a un qui est spirituel. Et dans le livre de l'Apocalypse, et ça c'est mon petit devoir pour vous cette semaine, lire Apocalypse chapitre 2. Et chapitre 3. Et dans ces 2 chapitres de l'Apocalypse, il y a 7 églises qui sont représentées. Il y a 7 messages de Jésus à 7 églises. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Et les 2 dernières églises, Philadelphie et Laodicée, représentent les chrétiens des derniers jours, donc nous. L'église de Philadelphie représente une église spirituelle, une église mature, parce que dans ce message à cette église de Philadelphie, Jésus n'a fait aucun reproche. C'est une perle, cette église de Philadelphie. Alors que l'église de Laodicée, qui veut dire, en d'autres termes, une église qui veut faire la volonté du peuple au lieu de faire la volonté de Dieu, c'est une église qui n'est ni chaude ni froide, qui est tiède. Et Jésus est en train de reprendre cette église et on dit « Repends-toi et à nouveau du zèle ». Donc on voit que ces 2 églises de Philadelphie et de Laodicée représentent des chrétiens vu qu'ils parlent à une église. Mais ces 2 assemblées représentent les chrétiens que nous sommes des derniers jours. Il y en a certains qui font partie de l'église de Philadelphie, qui se préparent au retour du Seigneur, qui sont consacrés à Dieu, qui prennent l'évangile au sérieux. Et il y a ceux qui sont comme les vierges folles, qui s'endorment, qui s'assoupissent et qui font comme les disciples dans le jardin de Gethsémané, ils dorment alors qu'ils devraient être éveillés. Alors de quelle église faites-vous partie? De l'église de Philadelphie ou de l'église de Laodicée? L'église de Philadelphie représente un réveil spirituel, représente la moisson des derniers jours, représente une église glorieuse que Jésus vient chercher, alors que l'église de Laodicée, c'est une église que Paul qualifie dans ses épîtres, qu'on appelle l'apostasie. C'est une église qui abandonne petit à petit la foi. Et il y aura ces 2 courants. Il y a toujours eu ces 2 courants dans l'église. Et ces 2 courants vont aller en s'accroissant. On va de plus en plus voir la différence entre ces 2 types de chrétiens. Et ces 2 types de chrétiens, je les appelle aujourd'hui. 1, il est croyant. alors que l'autre, il est disciple. Et j'ai une question que je vais vous poser pendant 3 semaines, que je vais développer. Est-ce que toi, tu es croyant ou alors tu es un disciple? Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit 4 disciples dans le livre des Actes et qu'on puisse apprendre de ces 4 disciples parce que nous sommes tous appelés à devenir disciples de Jésus. Et regardez ce que dit quelqu'un qui n'est pas chrétien, ce qu'il dit sur les chrétiens. Et je n'ai pas choisi n'importe qui, j'ai choisi un homme qui s'appelle Mahatma Gandhi. Donc on sait que Gandhi, il n'était pas forcément chrétien parce qu'il dit « vous autres chrétiens ». Donc qui était Gandhi? Gandhi était un homme, un leader spirituel dans son pays en Inde et un leader politique. Et il est mort au milieu du XXe siècle, en 1948 environ. Et il a dit ceci à propos des chrétiens. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit « tiens ». Ça, ça représente une catégorie de chrétiens de nos jours. « Vous autres chrétiens, dit-il, vous avez entre vos mains un livre qui contient suffisamment de dynamite pour réduire en miettes toute la civilisation, renverser le monde, faire de ce monde dévasté par la guerre un monde de paix. Mais vous faites comme s'il s'agissait juste d'un morceau de bonne littérature et de paix. » Donc le croyant, il considère la Bible juste comme un morceau de littérature. Je vais la lire comme bon me semble. Je vais la considérer juste comme un roman. Alors que le disciple base toute sa vie sur ce livre. Il la médite, il la lit, il la met en pratique. Il se retrouve avec d'autres chrétiens pour l'étudier ensemble, etc. Et moi, ça m'a beaucoup interpellé. Parce que dans le livre des Actes, là, il dit que les chrétiens ont le potentiel de bouleverser le monde. C'est ce qu'il dit ici. Et lorsque je lis le livre des Actes, et j'ai passé beaucoup de temps dans le livre des Actes pour préparer cette série, c'est pas une série que j'ai préparée juste en une semaine ou en quelques mois, ça fait presque 2 ans que je réfléchis sur cette question et que je suis interpellé dans ma propre vie, suis-je un croyant ou suis-je un disciple? Donc je suis juste en train de vous partager ma méditation de 20 mois avec vous. Mais je me suis posé cette question à moi-même, et maintenant je suis en train de vous renvoyer la question. Et dans le livre des Actes, on a une église. Le livre des Actes représente la première génération de chrétiens. Et dans le livre des Actes, la Bible nous dit clairement que l'église bouleversait le monde connu. Et par exemple, en parlant de Paul et de Silas à Thessalonique, regardez ce qu'on disait d'eux. Thessalonique, c'est une ville grecque au nord de la Grèce, proche de l'église, de la ville de Philippe. Ces gens qui ont quoi ? Bouleversé le monde. En parlant de Paul et de Silas, sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Et dans mon petit exercice spirituel, j'ai parcouru le livre des Actes et j'ai essayé de regarder si le mot croyant apparaissait dans le livre des Actes. Le mot croyant dans la Bible Louis II n'apparaît pas dans le livre des Actes. C'est mis qu'ils crurent ou alors ils ont cru au message qui leur était annoncé, mais le mot croyant, textuellement parlant, n'apparaît pas dans les Actes. Puis après, je me suis dit, mais est-ce que le mot disciple apparaît dans le livre des Actes? Et peut-être que j'ai manqué quelques mots, mais j'en ai compté 34. Le mot disciple apparaît 34 fois, alors que le mot croyant n'apparaît pas une fois. Ma conclusion est la suivante. Dans le livre des Actes, la première génération de chrétiens, l'Église de Jésus-Christ était remplie de disciples du Seigneur Jésus. Alors qu'au XXIe siècle, l'Église de Jésus-Christ, elle n'est pas remplie de disciples, elle est remplie de croyants. Et c'est là que le bât blesse. Et c'est ça qu'il faut absolument changer. Parce qu'il y a un autre homme très influent dans l'histoire de l'Église qui s'appelle Martin Luther. Et Martin Luther, qui est le père de la Réforme, il nous dit ceci. Si l'Évangile, il n'est pas pertinent pour répondre aux problèmes actuels, ce n'est pas l'Évangile du tout. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des continents ou des villes ou des pays qui sont énormément évangélisés, mais la société n'est pas transformée. Je vous donne un exemple. Vous allez par exemple dans les villes américaines, dans le sud des États-Unis, il y a énormément de chrétiens, il y a un taux d'évangélisation très haut. Pourtant, il y a toujours de la violence, il y a toujours du crime, il y a toujours de la prostitution. Vous allez en Haïti, vous allez sur le continent africain. Mes amis africains, ce n'est pas une critique, c'est juste un constat. Ne soyez pas fâchés avec moi. Mais c'est un continent extrêmement évangélisé. On voit Jésus sur les taxis, on voit Jésus quand vous allez chez le marchand de téléphone. Mais pourtant, la corruption demeure. Pourtant, les politiciens sont tous corrompus. Pas tous. On va faire une généralité. Quelques-uns, voilà. On va dire que les plus influents, peut-être. Alors ça, c'est un problème propre, par exemple, à l'Afrique. Mais vous savez, pour faire une contrepartie à ce que je dis, en Europe, Nous sommes très ignorants du monde spirituel. Un chrétien africain, il est conscient du monde spirituel, mais en Europe, vous parlez de démons, d'esprits méchants, il vous dit, mais tu parles de quoi? Ça n'existe pas, ces choses. Écoutez, je suis allé au Mozambique, j'ai dormi dehors, je sais ce que c'est qu'être oppressé spirituellement parlant. Et lorsque vous allez en Afrique, vous allez voir qu'il y a des marabouts et qu'il y a des sorciers et que le monde spirituel, il est vraiment palpable. Donc nous, on a un problème en Europe avec le fait d'être un petit peu aiguisé dans le monde spirituel, alors que par exemple en Afrique, c'est plutôt ce qu'on appelle la formation de disciples, ou en d'autres termes, le discipulat qui a besoin d'être vraiment enseigné. Et tout ça pour vous dire que ce que l'Église de Jésus-Christ a besoin aujourd'hui au XXIe siècle, c'est une vieille méthode enseignée par Jésus, former des disciples. Ou alors le discipulat. Et c'est ça qui nous manque. Et ça nous manque à un tel point que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus en train d'impacter la société. Il n'est plus en train de transformer la société. Il n'est plus en train d'amener la prospérité dans les nations. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui sont évangélisés, on a des gens qui sont chrétiens, on a des gens qui sont convertis, mais on a des vies qui ne sont pas transformées. Et ça, c'est un problème. Et ça, ça m'a fait méditer pendant bientôt 2 ans. Le printemps prochain, ça fera 2 ans que je médite sur cette question. Et je me suis dit que ce sujet commençait à arriver à maturité en moi. C'était le moment de le partager. Mais je crois que non seulement c'est un message pour notre Église, mais c'est un message ou une révélation que le corps de Christ global a besoin d'entendre. Parce que c'est la chose principale que Jésus nous a demandé de faire. Matthieu 28, verset 19. Imaginez que l'Église n'est pas en train de faire la chose la plus importante que Jésus a dite de faire. C'est quand même dramatique. L'Église n'est pas en train de faire la chose la plus importante que Jésus a dite de faire. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3 choses que j'aimerais qu'on remarque dans ce texte. Jésus n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations des paroissiens. Allez, faites de toutes les nations des convertis. Allez, faites de toutes les nations des chrétiens du week-end. Non, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ensuite, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous a dit de faire des disciples. Donc, si je ne suis pas encore disciple, mon appel, selon Jésus, c'est de le devenir. Et si je me considère comme un disciple de Jésus, on va le voir plus tard, mon appel, c'est d'en former d'autres. Mais nous sommes tous appelés par le Seigneur à devenir ses disciples. Et là, je ne sais pas si vous avez étudié le français ou si vous étudiez un petit peu la grammaire, mais moi j'ai appris que l'impératif en français, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une recommandation, j'ai appris à l'école que c'était un ordre. Et ici, Jésus dit « allez à l'impératif » et il dit « faites à l'impératif ». En d'autres termes, il n'est pas en train de donner « voilà, si vous n'avez rien d'autre à faire, peut-être que vous allez faire des disciples ». Il dit « ça devrait être votre priorité de faire des disciples ». Donc, soit de le devenir, soit d'en faire d'autres. Les 2 cas de figure, si vous considérez que vous êtes déjà disciple, vous verrez que vous avez le mandat d'en former d'autres. Donc, Jésus ne donne pas juste une idée, ne donne pas juste une suggestion, il donne un mandat. Vous savez, moi, j'ai fait de l'armée, et je pense que les jeunes, ça serait bien que vous tourniez un petit peu tous à l'armée aussi. En Suisse, c'est obligatoire, hein, ça forge un petit peu, c'est très bien. On apprend la soumission, on apprend la camaraderie, on apprend beaucoup de choses, vous savez. C'est pas mal. Et moi, j'ai appris ceci. Quand ton supérieur, il te donne un ordre, c'est présent compris et c'est fini. Il n'y a pas de négociation. C'est pas, oui, mais écoute, mon capitaine, j'ai encore... Non. Présent compris. Est-ce qu'on est présent et on comprend ce que Jésus nous donne? La tête de l'Église. Est-ce qu'on comprend ce qu'il nous demande de devenir et de faire? Disciples. Et la 3e chose qu'on pourrait remarquer dans ce texte, lorsque Jésus donne cet ordre de mission, il est entre sa résurrection et son ascension à la droite du Père. Imaginez un instant qu'un membre de votre famille revient à la vie et cette personne n'avait qu'un seul message à délivrer. Est-ce que vous considérez que ce message va être important ou il va être de moindre importance? C'est le dernier message que Jésus donne à ses disciples. Il est revenu à la vie pour donner ça. Et avant qu'il parte à être assis à la droite du Père, il a énoncé ses paroles. Et ensuite, il est monté au ciel de la montagne des Oliviers, whoop, monté à la droite du Père. Et Zacharie prophétise en Zacharie 14, verset 4, que Jésus, lors de sa seconde venue, il va poser les pieds là où il est monté, sur la montagne des Oliviers. Et à ce moment-là, cette montagne va se fendre en deux et ça va être prophétiquement le jugement des nations. Mais Jésus revient sur cette terre, littéralement parlant, poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, là où il a donné ce dernier commandement à ses disciples. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'important si c'est entre sa résurrection et son ascension? Moi, je le crois que c'est important, voire capital, voire primordial, étant donné que l'Évangile, comme le dit Martin Luther, n'est plus en train de transformer, il est plus pertinent pour transformer nos sociétés. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Mais la question qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est que si Jésus nous demande de faire ou de devenir ses disciples, mon raisonnement a été, mais alors à quoi ça ressemble un disciple de Jésus? Imaginez, vous êtes en train de faire une tarte aux pommes et dans votre livre de recettes, vous avez une image de la tarte. Et disent, si vous suivez votre recette, tôt ou tard, vous devriez arriver à ce résultat. Et donc, si Jésus nous dit, devenez mes disciples ou faites de toutes les nations des disciples, mais je me suis dit, mais Jésus ne nous donnerait pas ce commandement, ce mandat avec une telle autorité si je ne trouve pas dans sa parole les critères ou la description d'un disciple de Jésus. Et ça, ça m'a beaucoup préoccupé, ça m'a beaucoup travaillé, et je me suis dit, à quoi ressemble un disciple de Jésus? Si Jésus, tu nous demandes de devenir ton disciple, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça veut dire d'être disciple du Seigneur? Bon raisonnement. Ça vaut la peine d'être réfléchi et d'être médité. Alors, prenons déjà deux définitions que je qualifierais de générales d'un disciple. Général, pas biblique pour l'instant, général. On qualifie de disciple quelqu'un qui apprend en suivant l'exemple d'un maître. Platon avait des disciples, Aristote avait des disciples, Socrate avait des disciples, Michelangelo avait des disciples. Donc on peut déduire que le mot disciple n'est pas un mot religieux, c'est un mot académique. C'est quelqu'un qui apprend en suivant l'exemple d'un maître. On n'est pas intéressé de devenir comme Socrate ou comme Platon, mais on est intéressé de devenir comme le maître de Nazareth, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est le maître que nous essayons de suivre ou que nous voulons suivre ou que nous nous consacrons à suivre et nous apprenons en suivant son exemple. Ça, c'est une première définition de disciple. Une deuxième définition de disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître, mais pas juste pour le suivre, qui après va poursuivre la mission de son maître alors que son maître est parti. Et c'est exactement ce qu'il a demandé à faire à ses premiers disciples. Si on devait synthétiser la mission de Jésus sur la terre, pendant ces 3 ans, voire ces 3 ans et demi de ministère, c'était de transformer 12 personnes. Et je vous fais remarquer que ce n'étaient pas des hommes religieux, ce n'étaient pas des pharisiens, ce n'étaient pas des sadducéens, c'était des collecteurs d'impôts, c'était des gens qui faisaient la pêche, c'était des gens qui tiraient des charrettes, c'était des gens de la société. Et sa mission principale, ça a été de prendre ces 12 personnes de la société et de les transformer à un tel point de transformer d'abord leur vie avant qu'ils puissent bouleverser le monde autour de vous, comprenez? Le discipulat, c'est d'abord ma propre vie qui est bouleversée, qui est changée, qui est transformée par la puissance de l'Évangile. Et lorsque Dieu me place ensuite dans un environnement, ça émane de moi-même et ça change autour de moi. Mais d'abord, le discipulat, c'est la transformation d'une personne. Et c'est quoi la transformation de cette personne? C'est une personne qui était dans la société ou qui ne croyait pas forcément, mais qui maintenant devient un disciple accompli de Jésus et de son maître. Et Jésus, sa mission principale, c'était de transformer ces 12 personnes, des gens qui étaient dans la société, séculiers, qui n'avaient pas forcément d'arrière-plan religieux, et il a transformé à tel point leur vie que maintenant ils ont pu transformer le monde qui les entourait. Ça, c'est la bonne vieille méthode de Jésus qu'on appelle le discipulat. Et quelle est la définition biblique du disciple? On la trouve dans Luc 6, verset 40. Nous dit ceci, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Donc si notre objectif dans la vie chrétienne, c'est de devenir disciple, que faisait le maître? Si le disciple accompli devient comme le maître, que faisait le maître pour que je puisse être sa reproduction ou son imitation? Jésus sur la terre, il faisait 3 choses. On trouve ces 3 choses dans Matthieu 9, verset 35. Matthieu 9, verset 35. La Bible nous dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Et si vous continuez, Jusqu'à Matthieu 9, c'est Jésus qui faisait toutes ces choses. Mais en Matthieu 10, il y a un changement radical dans le ministère de Jésus. C'est qu'il dit, maintenant, ce n'est plus moi. Je vous donne le pouvoir, à vous les 12 que j'ai choisis. Et maintenant, c'est vous qui allez prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est vous qui allez enseigner. Et c'est vous qui allez guérir les malades. Mais là, je vous donne la capacité de le faire. Je vous donne l'autorité de le faire. Et maintenant, ce n'est plus juste moi. Étant donné que je suis en train de vous former à devenir mes disciples, maintenant, vous allez me reproduire et vous allez faire de même. Et c'est là qu'après, les disciples vont dire, « Jésus, même les esprits sont soumis en ton nom. » Et ils étaient tout étonnés parce qu'il leur avait donné leur pouvoir de le faire. Et ils ont vu que, waouh, ça s'accomplissait réellement dans leur vie de disciples. Donc, si Jésus faisait ces trois choses, et que tout disciple accompli, il est comme son maître. Et peut-être vous êtes en train de vous dire, oui, mais ça, c'était les premiers disciples de Jésus. Il leur a donné le pouvoir de le faire. Ils étaient carrément avec eux. C'était plus facile pour eux que pour nous aujourd'hui. Mais laissez-moi vous poser une question. Si les premiers disciples de Jésus, ils avaient le pouvoir et l'autorité, à combien plus forte raison, après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus à la droite du Père, en fait, on est plus outillés qu'eux. Parce que quand Jésus leur a donné l'autorité, c'était avant la croix, avant qu'il dépouille les principautés et les dominations, etc. Donc en fait, on est encore plus outillés qu'eux parce qu'on est né de nouveau et on a la puissance de l'Esprit-Saint qui est sur nous. Donc on ne peut pas dire, oui, mais c'était juste pour ces personnes, c'était juste pour ces 12 premiers disciples. Non, parce qu'il y a eu l'œuvre de rédemption. Et ne me dites pas qu'après l'œuvre de rédemption, on a moins de puissance qu'avant l'œuvre de rédemption, parce que là, ça serait un petit peu pas très correct au niveau doctrinal et théologique. Donc, quatre choses que j'aimerais vous dire. Et à la fin, je vous demande juste une chose, de faire l'évaluation dans votre propre vie. Est-ce que je réponds à ces critères ou est-ce que je ne réponds pas à ces critères? Et à la fin de la série, je vais préparer un petit papier où chacun pourra faire sa propre évaluation spirituelle de où il en est. Est-ce qu'il est plus proche d'un croyant ou est-ce qu'il est plus proche d'un disciple? Ça vous va? Et la découverte que j'ai faite, c'est que les critères pour devenir disciple sont très, très, très élevés. Ils ne sont pas bas, ils sont hauts. Et à un tel point que je me suis dit, mais Philippe, est-ce que tu es disciple? À force d'étudier cette question, je me suis posé la question, est-ce que toi, tu es disciple? Tellement le critère pour devenir disciple ou les critères sont élevés. Et lorsqu'on atteint ce statut-là, les choses commencent à changer dans la société. La première chose, si Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume, si je suis son disciple, un disciple annonce la bonne nouvelle. Et vous allez me dire, oui, mais moi, je ne suis pas appelé à prêcher. Je ne suis pas appelé derrière un pupitre. Je ne suis pas appelé à parler à une congrégation. Je suis d'accord avec vous. Mais le mot prêcher et annoncer, c'est le même mot. Nous ne sommes pas tous appelés à le faire de façon publique comme ceci, mais nous sommes tous appelés à le faire dans notre vie privée et dans notre vie de tous les jours. Donc, si Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume, alors son disciple annonce la bonne nouvelle du royaume également. Et c'est quelque chose qui nous a, il nous le dit vraiment très clairement dans les évangiles. Lorsqu'il est en Marc chapitre 16, il va dire, un autre texte très important, qui nous donne vraiment un critère pour ceux qui veulent devenir son disciple, il dit en Marc 16, verset 15, il va dire, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Si vous pensez que prêcher, c'est juste pour les prédicateurs et les pasteurs et les enseignants, non, vous pouvez transformer ce mot « Allez » annoncer la bonne nouvelle à toute la création, parce que c'est le même. Et je pense que Monica nous a vraiment bousculé un petit peu là, dans cette direction-là aussi. Et Nathalie, avec les écoles d'évangélisation et Compassion en Action, on a été remué d'aller dans cette direction, mais c'est bon, parce que c'est dans cette direction que va un disciple de Jésus. Et on le voit dans les actes, pour chaque critère, on va voir un critère dans les évangiles et un exemple dans les livres des actes. Et dans les livres des actes, on voit un disciple. Pas un apôtre, pas un évangéliste, pas un prophète, pas un docteur, pas un pasteur. On voit un disciple qui s'appelle ou qui s'appelait Étienne. Étienne faisait partie des 7 hommes qui ont été institués diacres dans l'église de Jérusalem en Actes chapitre 6. Et en Actes chapitre 7, il va prêcher ou annoncer la bonne nouvelle à son propre peuple. Et la Bible nous dit qu'il était rempli de sagesse, la grâce de Dieu sur lui. Il y a des signes qui accompagnaient sa prédication, mais c'était un disciple. Un disciple qui a compris ce que c'était de vraiment devenir disciple de Jésus. Et il s'est dit, si Jésus prêchait, alors moi aussi je vais annoncer la bonne nouvelle. Et il a annoncé la bonne nouvelle à un tel point, vous savez, quand vous allez annoncer la bonne nouvelle, il n'y a pas tout le monde qui va vous accueillir à bras ouverts. Et là, En Actes chapitre 7, Étienne est en train de retracer toute l'histoire du peuple juif. Il part d'Abraham, il parle de Joseph, il parle de Moïse, il parle de David pour arriver, parce que tout a pointé vers le juste, vers Jésus-Christ, celui qui peut donner le salut, la rédemption des péchés, etc. Et les hommes qui l'écoutaient étaient des responsables religieux. Ils ont été furieux contre lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et nous savons dans l'histoire du christianisme que c'est le premier martyr, le premier qui a laissé sa vie pour la cause de l'Évangile. Il s'appelait Étienne. Et vous savez quoi? C'était un disciple. Niveau de consécration, là. Pas là. Là. Et vous savez quoi? Moi, ce qui m'émeut dans l'histoire d'Étienne, c'est dans Actes chapitre 7, au verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Vous savez quoi? Normalement, le Nouveau Testament nous dit que Jésus, il n'est pas debout à la droite de Dieu, il est assis. Quelle est ma conclusion? Jésus s'est levé pour un disciple. Il a dit, Étienne, quand toi t'arrives au ciel, je serai debout. Vous pensez que les pasteurs auront une plus grande récompense que les disciples? Vous pensez que les apôtres auront une plus grande... Non, la récompense est basée sur la fidélité de ce que Dieu nous demande de faire. Et moi, je vous promets qu'il y a des disciples qui auront plus de récompenses que des gens qui sont établis dans des ministères comme moi, par exemple. Parce quoi? Parce qu'ils sont disciples. Et Jésus va se lever pour des disciples quand ils vont arriver au ciel. Là, on est en train de bousculer un petit peu la hiérarchie ici. Parce que le but des ministères dons, c'est d'équiper les croyants à devenir disciples et à faire l'œuvre du ministère. Notre but à nous, c'est que vous, de vous faire grandir, de rentrer dans ces choses. Donc notre but à vous, c'est de nous servir, c'est pas de vous asservir, c'est de vous servir pour que tout le corps de Christ, et ça, c'est prophétique. L'heure des grands prédicateurs et des grands hommes de Dieu est terminée. C'est l'heure du corps de Christ qui s'élève. Parce que vous savez, on ne peut pas faire le travail, on ne peut pas accomplir le travail juste avec quelques personnes qui sont établies dans le ministère. C'est l'œuvre pour tout le corps de Christ, toute l'assemblée, tous ceux qui veulent devenir disciples. Et là, il va y avoir cette moisson finale pour ceux qui sont prêts à payer le prix et à devenir disciples de Jésus. Et je vous dis, c'est un message prophétique. Vous savez, merci Seigneur pour les grands hommes de Dieu, pour les réveils de guérison, pour les Kenneth Hagin, les Oral Roberts, tous ces grands noms de l'Évangile. Mais vous savez quoi? Ça s'estompe petit à petit. Et maintenant, c'est l'heure pour les disciples de Jésus de régner et de faire le travail. Il s'est levé pour un disciple. Et vous savez quoi? Ceux qui meurent en tuant les autres, pour moi, ce n'est pas des martyrs. Étienne, c'était un martyr, parce que quand il s'est fait lapider, il a encore dit à la fin, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Ça, c'est un martyr. Quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle, sans avoir peur de perdre sa vie. Et quand il est en train de se faire lapider, alors qu'il y avait un certain Saul, Paul, qui était en train d'approuver le meurtre d'Étienne, qui était là, présent, comme quoi Dieu peut vraiment faire quelque chose avec notre avenir si notre passé, il est pas bon. Hein? Mais Paul, il était là, en train d'approuver ceci. Étienne, ses dernières paroles, ne leur impute pas ce péché. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'heure pour les disciples. Qui est appelé disciple? Tous. Il n'y a pas de catégorisation ici, nous sommes tous appelés à le faire. Et vous savez quoi? Dans l'Église, et j'aimerais vraiment vous montrer que notre Église, elle n'est peut-être pas forcément immense en nombre, mais elle vous donne l'environnement pour devenir disciple. Parce qu'on a commencé avec Compassion en Action, vraiment de nous bousculer un peu dans cette direction-là. Et il y a des ateliers, il y a des écoles, il y a des actions concrètes où on va dans la rue, on va dans les maisons de retraite, où vraiment, et si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, assemblez-vous avec quelqu'un qui le fait. Et écoutez, et regardez cette personne, comment elle le fait, comment elle partage la foi, comment elle parle avec les personnes. Mais il y a vraiment l'occasion de grandir dans ce domaine-là. La deuxième chose, si Jésus enseignait, alors son disciple, il va aussi enseigner. Et là, à nouveau, je ne suis pas en train de dire que tous les disciples ont le don d'enseignant. Ça ne serait pas correct. Par contre, tous les disciples de Jésus ont le mandat de former d'autres disciples. Si vous n'avez pas le mot enseignement, on pourrait dire tous les disciples de Jésus ont le mandat de transmettre ce qu'ils connaissent sur la foi, de transmettre ce qu'ils connaissent sur le Seigneur, de transmettre à d'autres ce qu'ils ont appris. Si vous êtes né de nouveau, vous avez quelque chose à transmettre à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Si vous avez 5 ans dans le Seigneur, vous avez quelque chose à transmettre à quelqu'un qui a une année dans le Seigneur. Si vous avez 30 ans dans le Seigneur, vous avez quelque chose à transmettre à quelqu'un qui est depuis 15 ans dans le Seigneur. Mais un disciple, il ne devient pas juste disciple pour lui-même, il devient disciple pour transmettre ce qu'il a appris à d'autres. C'est comme ça que l'Église avance. Et c'est comme ça que l'Église a avancé dans le livre des Actes. Et Jésus nous le dit très clairement dans le Matthieu 28 que j'ai déjà lu. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset 20, pas oublier le verset 20, et enseignez-leur, transmettez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Imaginez un instant, si Jésus forme 12 disciples, il prend 3 ans et demi pour les former, il part et les premiers disciples, s'ils avaient interrompu, ils se disent, nous on sait tout, nous on était avec Jésus, vous ne savez rien, vous êtes nuls, nous on est les meilleurs, etc. On a vu les miracles, etc. On ne va rien vous apprendre parce qu'on veut vous montrer qu'on est les meilleurs. Imaginez, l'Église des Actes se serait arrêtée en acte 1, voire en acte 2. Mais vous savez quoi? La Bible nous dit en acte 2, 42, que l'Église primitive, elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous savez, qu'est-ce qu'ont fait les apôtres? Ils ont reçu l'enseignement de Jésus et le mandat que Jésus a dit, ne gardez pas ça pour vous, enseignez-le à d'autres personnes maintenant. C'est comme ça que l'Église, et qui c'est qu'ils ont enseigné? Eh bien, ils ont enseigné Étienne. Étienne n'a pas été enseigné par Jésus, il a été enseigné par les apôtres dans l'Église locale de Jérusalem. Les apôtres, les premiers disciples, ont vraiment respecté ce que Jésus leur a dit. Ne gardez pas pour vous ce que vous savez sur moi. Transmets-le. Transmets-le à ta descendance. Transmets-le à des gens qui sont plus jeunes que toi dans la foi, etc. Et dans l'église locale, on a mis en place ces live groups qui permettent à vraiment d'échanger et de transmettre à d'autres ce que vous savez sur la foi. Et vous savez pourquoi on n'a pas plus de groupes? On a des personnes qui veulent ouvrir leur maison, mais on n'a pas d'animateurs, on n'a pas de personnes qui sont prêtes à transmettre à d'autres ce qu'ils savent. Qu'est-ce que ça se passe? L'église s'arrête. L'Église n'est pas en mouvement, l'Église des Actes était une déferlante parce qu'ils enseignaient à d'autres, ils enseignaient à d'autres, ils enseignaient à d'autres. Et Paul, il a trouvé un disciple qui s'appelait Timothée à Lystre, en acte 16. C'est la première fois qu'on voit le mot de Timothée ici. Et la Bible nous dit très clairement que c'était un disciple. Acte 16, il se rendit en parlant de Paul, ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Et qu'est-ce qui caractérisait Timothée? Qu'est-ce qui faisait de lui un bon disciple? La Bible nous dit qu'il rendait un bon témoignage dans son église locale. Et Paul, il a voulu l'emmener avec lui. C'était un peu douloureux pour Timothée parce qu'il a fallu qu'il soit circoncis. Et en 2 Timothée 2:2, donc, Paul arrive à Lystre, il dit, je prends ce jeune. Je prends ce jeune Timothée, je le prends sous mon aile, je le prends sous l'aile de mon apostolat, il va voyager avec moi maintenant, je vais le former. Et lorsqu'il va l'établir à Éphèse, il va lui donner une recommandation très précise. Il ne va pas lui dire, Timothée, garde bien pour toi tout ce que je t'ai appris. C'est moi le grand apôtre, ne le transmets surtout à personne. Oh non, 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 ne fais pas ça, chéris ce que je t'ai appris. Il va dire, ce que tu as entendu en présence de moi. Confie-le à d'autres qui soient capables de l'enseigner à des hommes fidèles et que ces hommes fidèles soient capables de l'enseigner à d'autres. Et là, on voit une succession de transmissions de connaissances. C'est comme ça que l'Église avance, quand les chrétiens ou les disciples transmettent à d'autres ce qu'il a reçu. Est-ce qu'on peut mettre 2 Timothée 2:2, s'il vous plaît? Et vous savez quoi? Paul, c'est Barnabas qui a pris Paul sous son aile. Barnabas, à côté de Jésus, c'était probablement le plus grand formateur de disciples du Nouveau Testament. Barnabas a pris Paul sous son aile. Paul a enseigné à Timothée. Timothée a enseigné à des hommes fidèles. Les hommes fidèles ont enseigné à des hommes capables. Et les hommes capables ont enseigné à d'autres. Succession de générations. C'est comme ça que l'Église avance. C'est comme ça que l'Église des Actes est comme un rouleau compresseur et qu'ils bouleversent le monde connu quand ils sont arrivés à Thessalonique. Il y avait une transmission. Il y avait un enseignement. Ça coulait. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le. Confie-le, ne le garde pas, confie-le, ne le garde pas, confie-le. Et si vous pensez que vous avez un certain stade au niveau de la foi, vous avez une responsabilité de former d'autres disciples. Vous pensez que c'est juste les pasteurs qui doivent former des disciples? Il a dit à ses premiers disciples de former d'autres. Troisième point. Si Jésus guérissait, qu'est-ce que va faire son disciple? Un disciple de Jésus impose les mains aux malades dans le nom de Jésus. Ça, ça m'a beaucoup aidé quand on a eu Cathy Crickinsey une fois, à l'école de guérison. Elle nous dit, notre rôle à nous en tant que disciples, c'est d'imposer les mains au nom de Jésus. Le rôle de Dieu, c'est de guérir. Ah, ça enlève un peu de pression. Et on le voit, c'est Jésus aussi, il l'a ordonné. Il nous a dit, maintenant, je suis allé rechercher les clés. Ces clés, moi, je vais au ciel, je vais vous les donner, je vous donne, qui symbolisent l'autorité. Et en Matthieu chapitre 28, Marc, pardon. On voit qu'il va clairement dire, je vais être un peu plus long ce matin, mais je vous rassure, vous serez libérés à temps. Mais je suis en train de poser une base pour les prochains messages, ça va ? Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au verset 17, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, c'est là que j'aimerais insister, et les malades seront guéris. Donc, le disciple impose les mains aux malades dans le nom de Jésus. C'est ça la responsabilité du disciple. La responsabilité de Dieu, c'est de guérir, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on voit un disciple dans le livre des Actes, à nouveau, pas un évangéliste, pas un apôtre, pas un pasteur, pas un docteur, un disciple qui a imposé les mains? On voit un disciple qui a imposé les mains dans le livre des Actes, et il s'appelle Ananias. Et en acte 9, au verset 10, il est dit très clairement que Ananias était un disciple. La Bible nous dit très clairement que Étienne était un disciple, parce que les apôtres, quand il y avait un conflit logistique dans l'assemblée pour servir les veuves, ils ont convoqué la multitude des disciples et ils ont dit « Choisissez parmi vous ». Donc Étienne était un disciple. On a vu que Ananias est un disciple, et on a vu que Timothée, la Bible dit très clairement qu'il était disciple aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Tiens, Ananias, il était disciple. La Bible ne dit pas qu'il était établi dans un ministère don. Quand je parle de ministère don, c'est les cinq ministères que j'ai cités à plusieurs reprises. Apôtre, prophète, etc. J'aimerais juste faire une parenthèse ici, sur la ville de Damas. Actuellement, Daesh est à 150 km au nord de Damas. Je vous encourage, en plus de Apocalypse 2 et 3, à lire Ésaïe chapitre 17. Ésaïe chapitre 17 est une prophétie sur la destruction de Damas, alors que Damas n'a jamais été détruite. Et je peux vous dire, si Damas est touché, le Seigneur Jésus est vraiment à la porte. Et là, suivez un petit peu les événements de l'actualité et suivez Damas. Et lisez cette prophétie d'Ésaïe dans le chapitre 17, parce qu'il prophétise que Damas va être détruite. Et quand j'ai vu et j'ai appris aux nouvelles que Daesh était à 150 km de Damas, je suis là, wow, ça s'accélère vraiment. Et donc ce disciple qui est nommé Ananias, il est à Damas, donc qui est en Syrie actuelle. Et on sait que Paul, son témoignage de sa conversion, c'est quand il allait à Damas faire du mal aux disciples du Seigneur, que Jésus lui apparaît sur cette vision, comme quoi ceux qui font mal au Seigneur peuvent voir Jésus en vision. Et ils ont vu Jésus, il est tombé, et pendant 3 jours, sa vue a été, il a été aveuglé pendant 3 jours. Et donc Ananias va voir dans une vision, il reçoit une vision du Seigneur, et lui dit, va dans la maison d'un certain Judas. Donc ce n'est pas le Judas des évangiles, on est d'accord ? Va dans la maison d'un certain Judas, parce que là, il y a Saul qui va devenir Paul, et il lui ordonne d'aller imposer les mains à ce Paul, ou à ce Saul, et il va lui imposer les mains, et 2 choses vont se produire. Première chose, Paul va recouvrir la vue, comme quoi un disciple impose les mains pour la guérison divine, première chose. Et en même temps, lorsque Paul a recouvert la vue grâce à l'imposition des mains d'Ananias, Paul a été baptisé du Saint-Esprit. Donc les 2 cas de figure de l'imposition des mains dans la vie d'un disciple, c'est la guérison divine et le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit fait partie de la doctrine fondamentale de Christ. Vous voyez ça en Hébreux chapitre 6. Donc il n'y a pas juste les pasteurs qui imposent les mains, les disciples imposent les mains dans ces 2 cas de figure, pour la guérison divine dans le nom de Jésus et pour le baptême du Saint-Esprit. Et on le voit ici en acte 9, au verset 17, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Deux choses se sont produites lors de cette imposition des mains. Ananias était disciple. Donc un disciple, il annonce la bonne nouvelle, comme Étienne. Un disciple, il forme d'autres disciples, comme Timothée. Un disciple, il impose les mains aux malades, comme Ananias. Et la quatrième chose, et dans notre Église, nous avons lancé cette école de guérison qui peut vous permettre de grandir dans ces choses et de comprendre ces choses. Dans les live groups, on a fait aussi toute une série sur l'imposition des mains, savoir pourquoi on impose les mains, quand on impose les mains, etc. Et la dernière chose que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est qu'un disciple de Jésus, il apporte sa pierre à l'édifice. Vous connaissez l'expression « apporter sa pierre à l'édifice » Et l'édifice en question, c'est forcément l'Église. Donc si Jésus a dit dans les évangiles, en Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Si Jésus est engagé à la construction de l'Église, si Jésus est engagé à l'édification de l'Église, si Jésus est mort pour l'Église, est-ce que son disciple, qu'est-ce qu'il va faire avec l'Église? Est-ce qu'il va la considérer ou il ne va pas la considérer? Le croyant, il ne va pas forcément la considérer, alors que le disciple, il va être attaché à une assemblée locale. Et un disciple, il va aider à l'édification de l'Église. Et on voit ici, dans Matthieu 16, verset 18, c'est une écriture très importante. Pourquoi? Parce que c'est là que le mot « Église » apparaît pour la première fois. Et le mot grec, qu'on traduit en français par « Église », c'est le mot « Ecclesia ». Mais « Ecclesia » ne veut pas dire « rassemblement ». Aujourd'hui, on est rassemblés, vous êtes d'accord? Mais le mot « ecclésia » veut dire « assemblée ». Donc, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Les chrétiens ou les croyants, ils se rassemblent. Mais alors un disciple, il s'assemble avec d'autres. Et il commence à construire une partie de l'Église. Qui a la responsabilité ultime de bâtir l'Église? T'es sûr? Qui a la responsabilité ultime de bâtir l'Église? Qui a dit qu'il allait bâtir son Église? C'est Jésus qui a la responsabilité ultime de bâtir son Église, vous êtes d'accord? Il a déclaré publiquement, je prends la responsabilité, je bâtirai mon Église. Donc, si vous voulez, c'est le contremaître, c'est le chef de chantier. Et lorsqu'il a cette interaction avec Pierre, qui en fait s'appelait Simon, et Simon va réaliser que Jésus, la vraie identité de Jésus, va dire, tu es le Fils de Dieu. Jésus va dire, c'est vrai, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. De la même manière que tu as découvert ma vraie identité, je te redéfinis ton identité. Tu ne seras plus appelé Simon, tu seras appelé Pierre. Et certains ont compris que Pierre, c'était vraiment parce qu'il allait être le père de l'Église, etc. Mais si on comprend l'épître de Pierre qu'il a écrite, chaque personne qui a une révélation que Jésus est le Fils de Dieu devient une pierre vivante pour construire l'Église. Pas une pierre morte, une pierre vivante. Pas juste des spectateurs, des acteurs dans l'Église. Ça, c'est un disciple, il est acteur. Il apporte sa pierre à l'édifice. Et là, ce qu'on voit vraiment, c'est, j'ai fait déjà une prédication entière sur lui, donc je ne vais pas m'attarder, mais un disciple qui faisait partie aussi de l'église locale de Jérusalem, qui a été aussi institué diacre avec Étienne, et ce disciple-là, il s'appelle Philippe. Et lorsqu'il avait ce conflit pour servir aux tables dans l'église locale de Jérusalem, ils ont formé une équipe de 7 personnes, 7 hommes qui allaient servir des femmes, c'était atypique pour l'époque, hein. 7 hommes qui allaient servir des femmes. Et parmi ces 7 hommes, j'ai déjà mentionné qu'il y avait Étienne, mais il y avait aussi Philippe. Et ils se sont dit, on fait partie de l'Assemblée, on est des disciples dans l'Assemblée, mais on ne va pas juste rester dans l'Assemblée. Il y a un conflit à résoudre, il y a un problème à résoudre. On va se mettre ensemble, on va former une équipe de service. On n'est pas juste rassemblés, on va former un solide assemblage ensemble. On va s'occuper de ces veuves aux tables et on va vraiment faire en sorte, comme si c'était notre ministère, on va le faire de tout notre cœur. Et ils se sont assemblés, ils ont formé une équipe de service ensemble pour construire cette partie de l'Église-là. Et nous savons, grâce en Actes 6, verset 7, que grâce à cette initiative, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait et un grand nombre de sacrificateurs commençaient à obéir à la foi. Donc en réalité, quand chaque disciple devient une pierre vivante à l'édifice de l'Église, non seulement il construit l'Église, mais en réalité, il agrandit le royaume de Dieu. Et vous savez quoi? Éphésiens chapitre 4 nous dit que les ministères dons sont censés équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Est-ce que Paul donne un pourcentage? Seulement 50% seront équipés pour le ministère. Seulement 50% vont rentrer dans le service. Seulement 25%, seulement 60%. Non, tous les saints sont censés être perfectionnés pour l'œuvre du ministère. Ministère, c'est un mot qui veut dire service, c'est la même chose. Donc, celui qui est disciple, il apporte sa pierre à l'édifice et il sert dans son église locale avec joie. Trois choses que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui. Sur les quatre critères que j'ai développés, on pourrait dire qu'il y en a deux qui se font plutôt à l'extérieur de l'église. Donc quand je parle de l'église, je parle du lieu où on se retrouve plutôt là. Ben, annoncer la bonne nouvelle, ça fait plutôt à l'extérieur. Et imposer les mains, on peut le faire à l'intérieur de l'église, mais on peut aussi le faire à l'extérieur, n'est-ce pas? Et il y a deux critères qui se font plutôt à l'intérieur ou dans l'enceinte de l'église locale. La formation de disciples, c'est-à-dire transmettre à d'autres ce que quelqu'un sait, et l'édification de l'église, c'est-à-dire le service ou le ministère que chacun occupe dans son assemblée. Parmi ces quatre disciples que j'ai choisis dans le livre des Actes, et ça, c'est très important, il y en a deux qui sont restés. Mais je ne dis pas restés dans un sens péjoratif. Dans le sens, ils sont restés disciples. Ils sont arrivés au statut de disciples, mais la Bible ne dit pas qu'ils étaient après dans un ministère particulier. Ils sont restés disciples. Quelles sont ces deux personnes? Étienne et Ananias. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces disciples-là, leur rôle, c'est de devenir disciples dans l'enceinte de l'Église et d'être disciples dans la société. Disciples de Jésus dans la sphère politique, disciples de Jésus dans la sphère juridique, disciples de Jésus dans le monde des affaires, disciples de Jésus dans la voirie. Peu importe, mais ces personnes qui restent disciples, leur rôle, c'est d'être dans la société et d'être une bénédiction pour la société. Et parmi ces deux autres disciples, il y en a deux qui ont été établis dans un ministère dont Timothée est devenu pasteur à Éphèse et l'autre, Philippe, est devenu évangéliste. Donc on voit que sur ces quatre disciples, il y en a deux qui vont plutôt se focaliser sur le perfectionnement des saints et l'édification de l'Église, alors qu'il y en a deux autres qui sont envoyés et qui sont plutôt dans la société au quotidien. Et vous voyez un petit peu la force qu'il y a ici. Il y a cette dualité. Certains des disciples vont devenir ministères dons. Certains des disciples vont rester à ce statut fort de disciples. Ils vont être une bénédiction là où ils se trouvent. Ils vont amener la bénédiction. Ils vont amener la prospérité dans leur business. Ils vont amener l'équité et la droiture dans le domaine politique. Ils vont se lever pour la justice dans le domaine juridique. Ça, c'est l'Évangile qui transforme les nations. Et c'est ce que Jésus nous a demandé de faire. Allez, faites de toutes les nations. L'Évangile est censé transformer les nations. Mais d'abord, on transforme les personnes pour changer les nations. Et ça, c'est le rôle de l'Église, de transformer les personnes. Et mon dernier slide ici, c'est celui-là. Si tu peux mettre juste le dernier. Quand les croyants, ils deviennent disciples, il y a deux choses qui se passent. Première chose, comme dans le livre des Actes, la société est bouleversée dans le bon sens du terme. L'Église de Jésus-Christ transforme la société. Parce qu'ils sont présents dans la politique, dans le droit, etc. Première chose. Et quand les croyants deviennent disciples, ils vont, parce que Jésus a besoin de certains ministères, il va dire, il y a ce qu'on appelle les vocations ministérielles qui vont commencer à jaillir. Parmi vous, il y a peut-être un évangéliste. Parmi vous, il y a peut-être un futur pasteur. Parmi vous, il y a peut-être un futur apôtre. Parmi vous, il y a peut-être quelqu'un qui est un futur enseignant dans le corps de Christ. Parmi vous, il y a peut-être quelqu'un qui va sortir et qui va être dans le ministère de prophète. Mais comment est-ce que ces vocations et ces ministères vont jaillir si les croyants n'atteignent pas le statut de disciple? C'est quand tu arrives au statut de disciple que ça commence à fleurir. Et ce qu'on appelle le ressort apostolique, c'est-à-dire que l'Église actuellement, elle est plutôt sédentaire qu'apostolique. Elle est plutôt établie plutôt qu'en train de gagner du terrain. Et aujourd'hui, le ressort apostolique, il est cassé. Pourquoi? Parce que l'Église, elle manque d'entrain, elle n'est plus cette vague puissante comme dans le livre des Actes. Et la seule raison que je vois, ou la raison principale que je vois, c'est que comme dans les Actes, c'était des disciples, alors qu'aujourd'hui, on est principalement croyants. Donc, l'Église n'est pas aussi forte qu'elle devrait l'être, parce qu'il lui manque des ministères dons. Et la société n'est pas transformée, parce que les gens sont croyants dans la société, et ils ne sont pas disciples. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais c'est le fruit d'une longue réflexion dans ma propre vie. Et la question, elle est simple ce matin. Est-ce que vous vous considérez comme un croyant? Ou alors, au vu des quatre critères que j'ai développés, vous vous dites, celui-là, je le fais, celui-là, je le fais, celui-là. Là, je dois encore progresser. Celui-là, je ne le fais pas trop, mais peut-être qu'en 2016, moi, je vous encourage une chose, de façon très concrète, assistez régulièrement aux célébrations et choisissez, par exemple, je vais suivre Compassion en Action pendant une année et je vais progresser dans l'annonce de la bonne nouvelle. Je vais suivre l'école de guérison toute l'année et je vais progresser et comprendre la guérison divine et vraiment mieux la comprendre. Ou alors, je vais assister à un live group en plus des célébrations. D'abord, je vais assister, mais après, je vais sentir que j'ai la maturité nécessaire pour avoir mon propre groupe, animer mon propre groupe, commencer à transmettre ce que je sais à d'autres, etc. Et nous avons mis dans notre église, et là, il n'y a vraiment aucune excuse, nous avons mis un chemin du disciple qui permet à chaque chrétien de devenir une pierre vivante. Vous commencez par les fondements du croyant, et ensuite, il y a un entretien pastoral, et ensuite, on vous aide à trouver votre place dans l'Assemblée pour devenir une pierre vivante. J'aimerais juste vous dire ceci, notre Église n'est pas immense en nombre, mais elle vous donne l'environnement pour devenir disciple. On a posé les jalons pour ça, c'est là. Après, moi, je peux vous présenter ça, je peux vous amener la parole dans cette direction, mais ce qu'on a besoin, c'est que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Est-ce que vous êtes d'accord que je prie dans cette direction? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui doit agir dans nos cœurs. Pour que vraiment on soit convaincu dans notre cœur, se dire, je veux arriver à ce statut de disciple. Je veux arriver à ce statut de maturité spirituelle. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme une torche brûlante dans la société. Je sais. Et peut-être vous dites, mais ma vie chrétienne en ce moment, je ne sais pas trop. Ça va. Mais je vous dis, ça commence avec le vouloir et le faire. Vous savez, une fois qu'on a la volonté, finalement tout va. Hein. Vous voulez vous lever? Je vais prier pour vous dans cette direction. Alléluia. La question, elle est simple, mais elle est profonde. Et moi, je vous assure, et hier soir, je ne sais pas pourquoi, mais souvent quand j'exerce le ministère, que ce soit ici ou ailleurs, les gens commencent à pleurer. Donc je ne sais pas si je leur ai fait du tort ou si c'est l'Esprit de Dieu qui agit en eux. Mais souvent les gens commencent à être émus. Et hier, il y avait une femme qui était vraiment en larmes. Elle a dit, mais moi j'ai mon travail qui m'empêche de m'engager plus, mais j'aimerais vraiment m'engager plus, etc. Est-ce qu'on peut trouver une solution? Et on a prié dans cette direction, quelle est la faveur de Dieu dans son travail, qu'elle puisse aussi. Mais simplement pour vous dire, mon but ce matin, c'était de vous défier. Ça fait bientôt 2 ans que je suis défié moi-même sur cette question. Je voulais simplement partager ça avec vous. Mais en aucun cas, mon objectif, c'était de rabaisser ou de mépriser. C'était au contraire de vous édifier, de vous défier et de vous élever à arriver à ce statut de disciple. Vous avez compris ce message? Juste que mon cœur soit bien compris. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ceux qui sont responsables devront rendre compte pour les âmes. Donc vous voyez, quand on est dans un ministère don comme dans un ministère pastoral, c'est pas juste faire le show avec un micro devant, hein. C'est rendre compte. Et le Seigneur Jésus va me poser la question, est-ce que tu as amené au statut de disciple les gens que j'ai mis sous ta responsabilité? Qui veut être responsable déjà? C'est une responsabilité. Ça, c'est la mienne. Mais chaque croyant ou chrétien a la responsabilité de devenir disciple. Et moi, je vois que les critères de disciples sont élevés. Mais vous savez quoi? Il nous a donné sa parole, nous sommes nés de nouveau, il nous a donné son esprit, nous avons le nom de Jésus, nous avons le sang de Jésus, nous sommes suroutillés. Il faut simplement apprendre à exercer les outils. Levez vos mains. Merci Père. Père, je te rends grâce. Parce que ta parole est toujours cette semence incorruptible. Et je te demande vraiment que les cœurs puissent recevoir cette semence ce matin. Recevoir cette semence et qu'elle puisse commencer à germer. La question est simple, mais elle peut chambouler toute notre vie. Sommes-nous croyants ou sommes-nous disciples du Seigneur? Et ce que je prie, c'est que par ton esprit, tu puisses créer en chacun de nous le vouloir et le faire. Ce désir de devenir davantage comme toi, le désir de poursuivre ta mission, le désir de pouvoir marcher à ta suite. Le désir, comme Paul dit, que Christ, qui est en nous, soit pleinement formé en nous. Et que tout disciple accompli, il sera comme son maître. Père, je te place les bien-aimés sous ta main et sous ta protection pour cette semaine. Je te prie vraiment de les encourager et de les fortifier et que vraiment ils puissent continuer à méditer cette question. On va revenir sur ces choses la semaine prochaine et dans 2 semaines. Mais vraiment, je pense que c'est un message qui est non seulement pour notre assemblée, mais c'est une révélation que le corps de Christ a besoin d'entendre pour que l'Église de Jésus soit forte et pour que la société soit changée dans le nom de Jésus. Et moi, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je prends la responsabilité de devenir comme Jésus. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'être plus en plus à la stature parfaite de Christ. C'est un engagement que je prends pour ma vie personnelle. Si vous avez envie de le faire pour votre propre vie, vous pouvez le faire. Peut-être vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire cette semaine, alors que vous allez continuer à méditer ces choses. Mais je vous encourage vraiment à ne pas laisser ce message tomber par terre, parce que ce que j'ai reçu, je ne sais plus si c'était avant-hier ou hier, sur ce message, j'ai reçu très clairement, ce n'est pas juste un message, c'est un mandat. Et le mandat principal que Jésus nous a donné de faire. Donc vraiment qu'on puisse embrasser ce mandat.